L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 70, 71, 72 et 73e épisodes du podcast Bâtissons des futurs solidaires, rendez-vous à l'Université de Haute-Alsace autour de la question de la réciprocité dans le soin, de l'alimentation à la santé. Rencontre avec ceux qui mènent des expériences, des apprentissages coopératifs, des observations et études au service du faire commun. Bonjour à tous les deux. Vous êtes étudiants en Master 2 ESS et dans le cadre de vos études, vous avez participé à un voyage apprenant qui rassemblait 11 étudiants répartis en 3 groupes sur la question des centres de santé communautaires. Qui peut m'expliquer quelle a été la démarche adoptée ?
Bonjour madame, moi c'est Serge, Geoffroy Serge Agos, on m'appelle. Je suis membre du groupe qui a travaillé pour le voyage apprenant sur le centre de soins communautaires. Et nous avons rejoint ce groupe par envie. Nous, on a senti le besoin d'aller sur le groupe santé communautaire. Et cette semaine de travail du voyage apprenant a duré 5 jours. Et comme vous l'avez présenté, on a travaillé en sous-groupe de 3. Le travail a constitué à faire un diagnostic, une monographie de la ville en matière de santé, tout ce qu'il y a comme difficultés de santé, les habitants, qu'est-ce qu'ils ont comme problème de santé, les professionnels de soins, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficultés en matière de pratique de soins de santé. Et après, on a fait une restitution de ce travail qu'on a dénommé projet de centre de soins communautaires.
Je vais donner la parole à Rouloud Ayari, donc, qui est étudiante et qui a participé aussi à ce voyage apprenant. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez rencontré, quel type de personne vous avez rencontré, ce qu'elle représentait pendant ce voyage apprenant ?
Alors oui, on a rencontré des habitants. On a rencontré une étudiante en médecine qui se reconvertit ou qui fait une année de césure pour apprendre plus sur l'éthique. On a rencontré des médecins. On a rencontré une personne qui travaille à l'ARS. Et des politiciens et des membres du collectif Santé en commun avec qui nous ont encadrés pendant ce voyage apprenant.
D'accord. Donc, est-ce que ces personnes avaient toutes une bonne connaissance de ce que peut être un centre de soins communautaires ? Serge ?
Non, ces personnes n'avaient pas tous, ils savaient pas tous ce qu'on mettait dans un centre de soins communautaires. Et il faut préciser que nous-mêmes, au sein du groupe Voyage Apprenant, au départ, on ne savait pas ce qu'on appelait santé communautaire, centre de soins communautaire. Pour commencer, on a fait un travail au sein du groupe où on a élucidé, chacun a dit ce qu'il comprenait du centre de soins communautaire. Et c'est le même problème qu'on a rencontré auprès des populations qui ne savaient pas.
Alors, est-ce que vous, Rouloud, vous pouvez nous donner votre définition du centre de santé communautaire ? Si vous deviez l'expliquer, peut-être comme vous avez été amené à le faire lors de ces rencontres, en quelques mots, c'est quoi un centre de santé communautaire ou un centre de soins communautaire ?
Alors la santé communautaire, c'est une santé qui se veut alternative à la santé conventionnelle qui médicalise les corps. C'est une santé qui replace la lutte contre les souffrances. En fait, il y a des personnes qui renoncent aux soins conventionnels parce qu'elles se sentent discriminées, d'autres qui ne sentent pas qu'elles sont en confiance, donc elles décident de rester malades. Les centres de soins communautaires sont des centres qui proposent des soins primaires et qui permettent de mettre les soignés au centre. Et du coup, ils ont plus de possibilités de parler de leurs maladies et souffrances.
D'accord, merci Serge. Vous voulez...
C'est plus une santé préventive.
Santé préventive et santé générale, on peut le dire ça aussi, médecine générale.
Médecine générale, médecine publique, si on peut le dire aussi comme ça. Un centre de soins communautaires n'est pas pour médicaliser, n'est pas là pour médicaliser. Et comme je le disais, pour ne pas me répéter, c'est la prévention des maladies. On vient, on discute de nos pratiques de santé, ce qu'on n'entend pas. Si tu as une petite pathologie, une petite maladie, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça s'aggrave, apprendre à cuisiner, faire du sport ensemble, des pratiques, d'autres pratiques qui aident à la santé mentale aussi, qui ne prend pas la santé psychique, qui n'est pas que de traiter une maladie.
Donc c'est une conception générale de l'humain et de sa santé avec tout ce qui concerne l'environnement, vous l'avez dit, l'alimentation, et puis les autres, et là où ils se situent. Alors là, justement, une question de contexte, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui savaient déjà ce que c'était, qui étaient plutôt favorables, et est-ce que vous avez aussi rencontré des gens qui ne connaissaient pas, ou qui étaient défavorables, ou les deux? Alors, dans l'ordre que vous souhaitez.
On va commencer par ceux qui ne connaissaient pas, il y a deux catégories. Ceux qui ne connaissaient pas, il y avait des gens à qui on a expliqué ce qui sont du sang et qui ont adhéré au projet. Mais il y a d'autres qui ne connaissaient pas, mais quand on leur a expliqué, ils se sont dit, ça c'est un hôpital. Et souvent, ceux qui ont fait un ressenti négatif, c'est des gens, des professionnels, qui se voit en concurrence avec, qui voit le centre de soins communautaires comme un centre concurrent aux hôpitaux, à leurs cabinets, à leurs différents cabinets.
D'accord. Vous, Rouloud, je crois que vous nous avez dit que vous aviez rencontré des collectifs qui étaient plutôt très favorables et votre rencontre leur a permis peut-être d'aller un petit peu plus loin dans leurs convictions.
Oui, effectivement, c'est le collectif qui nous a accompagnés lors de ce voyage et c'est ils sont supposés nous avoir proposé ou demandé un devoir académique, mais ce n'était pas le cas. C'était un collectif qui nous a juste orientés et ils ont leur propre conception de la santé communautaire et ils nous ont permis de nous approprier ça. Et dans les rencontres, en fait, même les personnes qui ne maîtrisent pas le terme, il y a des gens qui la font, la santé communautaire. Même la pharmacienne qu'on a rencontrée, pour elle, le pôle privé de médecine ou la pharmacie en soi, elle fait de la santé communautaire, puisque les patients, quand ils viennent, ils disent « oui, j'ai de la toux », elle informe, etc. Et après, elle donne le médicament. Donc, la santé communautaire, elle réunit plusieurs gens. La liste, les indépendants qui sont des politiciens, pour eux, la santé municipale, elle est au centre de leur politique. Et ça peut se croiser avec ce que c'est que la santé communautaire, la santé publique. Et donc, c'est une notion qui est pas fermée, c'est une notion qui fédère, c'est une notion qui permet de créer du lien.
Donc, c'est une notion aussi qui existe, en fait, de ce que vous me dites, la pharmacienne. Peut-être le médecin, le futur médecin, vous en avez parlé, qui sont sensibles au moins à certaines composantes. Et après, il y a des citoyens qui ont des besoins spécifiques, qui peuvent plutôt être orientés ou avoir envie de se diriger vers un centre de soins de santé comme celui-là.
On a eu un entretien avec un membre du collectif. On lui a dit « Ok, et si on ne réussit pas cette tâche que vous nous demandez de penser à l'emplacement de ce centre de soins communautaires ?» Et elle nous a répondu « C'est pas grave, c'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est d'avoir un espace de pensée, un espace même juste où il y a l'espace de réflexion autour de qu'est-ce qui ne marche pas dans la santé actuellement. »
Serge, une petite précision peut-être.
Peut-être pour dire que les usagers, ils sont en attente d'un centre pareil, surtout en matière de précarité, de santé, ils n'ont pas de médecin traitant. Mulhouse a une particularité où les médecins sont presque à la retraite, où déjà il y a moins de médecins. On a constaté ça par les déambulations, moins de médecins, et c'est des médecins qui sont presque à la retraite. Le médecin qu'on a rencontré au Coteau, il est le seul dans ce quartier, au Coteau. Il est le seul médecin et il va à la retraite dans 2 ans. Et les habitants de Coteau qu'on a rencontrés, il y a des gens qui ont souhaité avoir un centre comme ça, ne serait-ce qu'aller pour, même si ce n'est pas pour rencontrer un médecin ou un professionnel de soins, leur dire « Ah, j'ai quelqu'un qui a souffert de ce mal, il a eu une pratique comme ça, il a eu une amélioration. » Ne serait-ce que cela, c'est un centre avantageux pour eux.
Alors, après toute cette collecte d'informations, après toutes ces rencontres, est-ce que vous avez été amené à aller un petit peu plus loin, à ébaucher un projet, justement, de centre pour le centre de Mulhouse, le centre-ville de Mulhouse?
Oui, on a...
Alors, Serge.
Oui, on a... on a fait le projet... et on a pensé au projet. Et le projet, on l'a pensé en trois parties. Le lieu, l'usager et le modèle économique. Le lieu, on a pensé à un lieu vivant, un lieu où il n'y aurait pas de centre d'accueil, il n'y aurait pas de salle d'attente, un lieu où on peut venir. Et l'usager, on a pensé à... Est-ce que l'usager doit participer forfaitairement? Est-ce qu'il doit payer? Est-ce qu'il doit être un engagé? Ou quel type d'usager? On a réfléchi à cela. On s'est donné comme, ce que je n'avais pas précisé au départ, on s'est donné comme objectif de ne pas proposer quelque chose de figé. Et on a dit que du territoire, on doit normalement faire intervenir beaucoup de gens parce qu'on s'est posé la question de savoir quelle est la légitimité de 11 étudiants sur un territoire aussi vaste pour proposer quelque chose pour ces populations. Donc, on a dit on le laisse comme ça, mais l'essentiel est qu'on donne, on fait une imagination de comment un lieu peut être, le lieu de centre de soins communautaires peut être. Il doit être ouvert à tout le monde, les gens doivent venir quand ils veulent. Et maintenant, la grande question, ce sont les professionnels qui vont animer ce lieu. Comment ils seront payés, comment le centre va vivre, quel serait le mode de gouvernance de ce centre de soins communautaire. On a pensé au mode de gouvernance participative, démocratique. Donc, il n'y a pas un usager peut devenir facilement directeur de ce centre. Et on a pensé à ça. Pour le modèle économique.
Oui, alors justement, vous précédez ma question. Okay. Le modèle économique, comment on a bien compris que c'était du cas par cas, que l'individu était au centre, qu'il pouvait être usager et aussi professionnel ou père aidant ou en tout cas participer. Alors, le modèle économique, comment le voyez-vous? C'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui.
Hein. On s'est inspiré plus de ce qui existe déjà, parce que la case de santé de Toulouse avait un modèle économique qui était basé sur les subventions publiques. Et après des années d'existence, ils se sont vus retirer beaucoup de subventions parce qu'ils avaient des activités qui allaient dans le sens que l'État, que les décideurs ne voulaient pas. Donc, on a pensé à des subventions, à plusieurs types de subventions, subventions privées, subventions au début de l'activité. Et après, on a pensé à un modèle de financement forfaitaire, de participation forfaitaire pour faire vivre le centre.
D'accord. Donc, de multiples ressources pour ne pas être trop dépendant d'au moins l'une d'entre elles. Un système de forfait, on y reviendra sur ce sujet au cours d'un autre épisode. Peut-être que, Rouloud, vous pouvez avoir le mot de la fin. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important pour bien préciser toute votre démarche?
Moi, je pense que dans cette réflexion et ce que nous a apporté toute cette expérience, c'est que l'objectif que partagent toutes les personnes engagées, qui ne sont pas forcément connaisseuses de ce terme, mais c'est qu'on veut réencastrer la santé dans le social et que la santé n'est pas un service privé. Donc, repenser même la santé, même si on ne produit pas des espaces physiques, mais on produit des espaces modeste où on peut discuter entre des personnes très diplômées, des personnes pas du tout diplômées, des personnes qu'on stigmatise de folles ou des personnes qui sont normales, entre guillemets. Ouais, des personnes handicapées, des personnes qui le sont moins, des personnes étrangères, des personnes sans papier, donc illégales, entre guillemets, et des personnes légales. Donc la santé est un espace qui nous appartient et c'est...
Et si je peux résumer votre pensée, Rouloud, on a besoin que la santé, elle soit partout et saisissable par tous.
Oui.
On peut le dire comme ça?
On peut le dire comme ça, mais je voudrais juste revenir sur une partie que Rouloud... Il ne faut pas oublier que la santé communautaire, les centres de soins communautaires ne remplacent pas les hôpitaux.
Merci Rouloud Ayari, merci Serge Agosso. Je rappelle que vous êtes tous les deux étudiants en Master 2 et que vous avez participé à ce voyage apprenant. Merci infiniment. Merci à l'Université de Haute-Alsace. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.